RTL, il est 22h.
RTL Grand Soir.
Agnès Bonfillon, Christophe Paco.
Bonsoir à tous. Bonsoir Agnès.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver pour RTL Grand Soir. C'est votre grand rendez-vous avec l'actualité pendant plus d'une heure de votre journée. Un journal tout d'abord, du décryptage, des invités, les grands dossiers du jour, l'actualité du net, l'actualité de l'écho, l'écho 2.0, puis les sports bien sûr avec du football ce soir et la Ligue Europe. Plus que jamais, vous êtes bien sur la première radio de France. Et sans plus tarder avec vous, Agnès, les grands titres de l'actualité de ce jeudi soir.
La douche écossaise, le chômage repart en flèche au mois d'octobre. 42 000 demandeurs d'emploi supplémentaires, plus 1,2%. On n'avait pas vu ça depuis avril 2013. Ce sont surtout les seniors qui sont les plus touchés. François Hollande et Vladimir Poutine prêts à combattre Daesh ensemble. Le président français a rencontré ce soir son homologue russe. Nous irons rejoindre notre envoyé spécial à Moscou. Demain, le chef de l'État sera aux Invalides pour présider la cérémonie d'hommage aux 130 personnes tuées le 13 novembre dernier à Paris. Cérémonie à laquelle certaines familles ne souhaitent pas participer. Vous entendrez pourquoi. Plus de 4 élèves sur 10 entrent au collège sans maîtriser les bases élémentaires en mathématiques, les fondamentaux. Étude du SNESCO, le Conseil national d'évaluation du système scolaire. Sa présidente Nathalie Mons sera notre invitée ce soir.
Puis il y a du foot ce soir. Hein,
ah bah oui, la Ligue Europe.
Bah oui.
Qui dit foot dit
grand fil rouge. Grand fil rouge ce soir et tout de suite direction Marseille. Marseille, Groningen, l'avant-dernière journée de la phase de poule avec Jean-Luc Pacul.
Ouais, c'est la mi-temps ici au stade Vélodrome, dans un stade Vélodrome vide, quasiment vide, 7000 personnes. À peine pour soutenir l'OM qui mène tout de même 1-0 depuis le but de Georges Kevin Nkoudou à la 27e minute. 1-0 pour l'OM, c'est la mi-temps.
Et Bordeaux joue à Liverpool, Denis Grandjou.
Exactement, c'est la mi-temps. Ici aussi, Bordeaux qui a absolument besoin de gagner et Bordeaux qui pour l'instant est mené 2-1 par les Anglais. Pourtant, c'est Bordeaux qui a ouvert le score sur un magnifique coup franc d'Henri Cévé à la demi-heure de jeu. Puis ensuite, un pénalty de Milner et un but de l'international belge Benteke juste avant la pause permet donc aux joueur de Klopp de mener 2-1. Klopp, c'est
l'entraîneur de Liverpool, oui. Bien sûr. Oui. Paquet neutre, évidemment. Et puis, ce soir, pour Monaco, désillusion, battu à la maison 2-0, il faudra aller chercher la qualification lors de la dernière journée. Et bonne nouvelle pour les Verts de Saint-Etienne, un but partout à Rosenborg. L'actualité du net tout à l'heure, juste avant 22h30, ne l'oubliez pas, l'écho 2.0. On parlera bon plan pour les easy parties, pour faire des grandes fêtes. Les sports reviendront à 22h40 avec un dossier complet, sur le foot notamment. Et on terminera ce soir avec une invitée d'exception.
Ah oh bah Carmen Maria Vega. Attention, hein. Quand dans elle déboule, elle déboule.
Ah oui, oui. À ne manquer sous aucun prétexte, ce sera donc juste avant 23h. Vous connaissez le rendez-vous, ça s'appelle Signe Agnès.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco, Agnès Bonfillon.
Les 22h03 et la cérémonie d'hommage aux victimes qui débutera demain matin aux Invalides à 10h30.
François Hollande prendra la parole devant les familles des victimes, mais aussi devant les pompiers, les policiers ou encore des médecins. Parmi les proches des 130 tués le 13 novembre dernier, certains ne feront pas le déplacement. C'est voulu. Pas question pour les parents d'Anna et Marion, originaires du Loir-et-Cher, par exemple, d'être aux Invalides. Leurs deux filles ont été tuées alors qu'elles dînaient en terrasse ensemble. Pour eux, le gouvernement français a une part de responsabilité dans ce drame.
Si on y va, c'est d'accepter la fatalité. Et nous, on ne l'accepte pas, donc on n'y va pas, c'est tout.
On n'a rien fait pour éviter ça. Et quand une société est touchée à un point comme elle a été touchée au mois de janvier avec Charlie Hebdo, eh bien, on devrait avoir prévu tout ça. Et puis laisser les militaires et la police faire leur travail.
Vous ne voulez pas serrer la main du président et du Premier ministre?
Non. J'ai rencontré Manuel Valls à l'école militaire.
Qu'avez-vous dit à Manuel Valls?
Je lui ai dit que c'était le résultat de sa politique, de leur politique, quoi, parce que c'est pas lui le seul responsable.
Et que vous a répondu Manuel Valls?
Il m'a rien répondu, il m'a dit je comprends votre colère, vous pouvez me dire n'importe quoi.
Et c'est pour cette raison que vous n'avez pas envie d'assister à l'hommage national aux Invalides maintenant?
Non, je n'irai pas. Ça sert à rien. Nos enfants sont morts, cet hommage va être rendu par une personne qui ne connaît ni nos enfants ni leurs parents, qui ignore tout d'ailleurs. Je vois pas l'intérêt d'aller serrer et remercier ces gens-là, non.
Les parents d'Anna et Marion, tués comme 128 autres personnes dans les attentats de Paris le 13 novembre dernier.
Dès la fin du journal, 3 minutes pour comprendre comment se déroulera demain cet hommage national aux victimes d'attentats. À Paris, aux Invalides, on le rappelle, on sera avec Olivier Boss du service politique d'RTL. Et puis après Barack Obama, David Cameron et Angela Merkel, François Hollande a rencontré ce soir à Agnès Vladimir Poutine.
Oui, en se rendant à Moscou, le président français poursuit son objectif, former une large coalition pour combattre Daesh. Jusqu'ici, la France et la Russie avaient une vision bien différente des choses, surtout concernant le maintien au pouvoir du président syrien Bachar el-Assad. Christophe Decroix, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'envoyé spécial de RTL à Moscou. Christophe, la rencontre s'est terminée il y a moins d'une heure. Les deux dirigeants ont-ils quand même réussi à trouver des points d'accord?
Écoutez, après une heure et demie d'entretien et un dîner au Kremlin, les deux présidents se sont mis d'accord à minima pour intensifier tout d'abord les échanges d'informations. Il s'agit d'éviter de frapper aux mêmes endroits et surtout éviter des incidents comme celui de l'avion russe abattu par les Turcs. Mais surtout, on va tenter d'être davantage raccord sur ce qu'il faut viser lors des frappes, assure François Hollande.
Combattre Daesh et les groupes terroristes et au sol. Les forces luttant contre Daesh et les groupes terroristes ne doivent pas être visés par nos actions. Nous devons aller frapper les groupes terroristes et Daesh.
Christophe Decroix, y a-t-il encore ce soir des points d'achoppement?
Ah oui, je peux même vous dire qu'il y a eu une douche froide à la suite de ça. Parce que sur Bachar el-Assad, Vladimir Poutine ne lâche rien. Pour lui, le destin du président syrien est entre les mains du peuple syrien. Et de plus, pour le maître du Kremlin, on ne gagnera pas cette guerre sans avoir des hommes sur le terrain. Et il n'y a pas d'autre solution, selon lui, que de s'appuyer sur l'armée gouvernementale qui sont, dit-il, nos alliés naturels contre le terrorisme. Et ça, évidemment, c'est inacceptable pour François Hollande.
Merci Christophe Decroix en direct de Moscou ce soir pour RTL. En Grande-Bretagne, comme prévu, le Premier ministre David Cameron s'est exprimé devant la Chambre des communes. Les parlementaires voteront la semaine prochaine pour s'engager ou non militairement contre l'État islamique. Face à la menace d'un attentat chimique ou bactériologique, le Premier ministre Manuel Valls a décidé il y a quelques instants, on l'apprend, de mettre en place un Conseil national consultatif pour la biosécurité. Le but, éviter que des recherches sensibles ne soient détournées à des fins terroristes.
RTL Grand Soir.
Et le chômage qui repart à la hausse au mois d'octobre, et pas qu'un peu, Agnès.
42 000 personnes supplémentaires inscrites à Pôle emploi, soit une hausse de 1,2%. C'est un très, très fort rebond, Philippe Roy-Condoncin.
Le recul du chômage en septembre n'aura duré que le temps de la rentrée. Le chiffre d'octobre est d'un des pires depuis 2007, avant la crise financière. Depuis l'élection de François Hollande en 2012, plus de 665 000 chômeurs supplémentaires se sont inscrits à Pôle emploi. Donc aujourd'hui, le nombre de demandeurs d'emploi atteint 3 589 800, une hausse de 3,7% en un an. Et si le chômage des jeunes, en raison des emplois aidés, marque une baisse sur 12 mois, en revanche, les 25-49 ans sont plus nombreux. Et la situation est encore pire pour les seniors. Le chômage des 50 ans et plus a augmenté de 9% sur la même période. Il ne faut pas oublier ceux qui ont une activité professionnelle, souvent des petits boulots, qui sont toujours à la recherche d'un travail à temps plein. Si on les rajoute, la France compte donc 5 435 800 inscrits. À 15 jours des régionales, cette forte hausse risque bien entendu d'avoir des incidences électorales.
Philippe Roy-Condoncin du service économique et social de RTL.
Et donc pour certains, c'est un plan social qui rime avec chômage. D'autres, les éleveurs de porcs par exemple, espèrent, eux, rapidement des résultats et en vain.
Oui, c'est une véritable catastrophe concernant les cours du porc. Le kilo est désormais à 1,08 euros. Ça s'effondre. Alors, des négociations avaient abouti à un accord l'été dernier, vous vous en souvenez peut-être. Accord qui garantissait aux éleveurs 1,40 €. On en est loin, très loin. Et pour certains, le quotidien devient très rude. Pour RTL, Nicolas Bobby, vous avez rencontré un couple qui habite Moron, dans le Morbihan.
Oui, c'est la consternation, l'incompréhension dans les campagnes. Passionnés par leur métier, Jean-Yves et Christelle élèvent des porcs depuis 27 ans. Ils n'ont jamais connu une cotation aussi basse.
Ah non, moi j'ai jamais connu ça. On a un prix de revient qui est entre 1,35 € et 1,40 €. Et donc, je ne sais pas comment en faire en début d'année. Tous les jours, on perd de l'argent.
Nos comptes sont vraiment rouges. Ben oui, on fait attention à ce qu'on achète. On ne va pas tous les jours dans les supermarchés. Ah, les vacances, voilà, en 25 ans, il y en a eu très peu et il n'y en aura pas ces jours-ci non plus. De toute façon, on n'a pas d'argent. On est obligé de faire très attention.
Un malheur n'arrive jamais seul. En ce moment, les abattoirs n'achètent pas tous les cochons.
Ils restent chez nous pendant ce temps-là, quoi. On les garde 8-10 jours. Alors pendant ce temps-là, ils mangent de l'aliment, ils consomment.
Vous allez continuer le métier tout de même ?
Oui, j'ai continué pour l'instant. Jusqu'à quand, j'en sais rien.
On a un enfant qui a 18 ans, qui est passionné de l'agriculture, qui espère un jour revenir avec nous.
Du jour au lendemain, la banque va nous appeler, dit c'est fini, il y a trop de dettes, on arrête tout, quoi.
En plus des grosses factures à régler pour le fonctionnement de la ferme, le couple finance les études de ses trois enfants.
Le reportage de Nicolas Bobby sur le front de l'emploi concernant les déserts médicaux. Après avoir encouragé les généralistes à s'installer dans les zones qui manquent de médecins, Marisol Touraine, la ministre de la Santé, souhaite faire la même chose avec les généralistes, garantir les spécialistes, je vais y arriver, garantir à 500 nouveaux diplômés un salaire minimum 3000 euros par mois pendant un an. Autre mesure de ce plan, envoyer des étudiants en stage dans ces nombreuses zones. Et puis volte-face du gouvernement, contrairement à ce qui avait été annoncé, il n'y aura pas d'allègement de taxes sur l'essence en janvier. Ce sera hausse pour tout le monde, sans plomb et diesel.
Dis-moi de quel côté tu dors. Je te dirai quel caractère tu as.
Alors, dans les bras de Morphée, vous êtes plutôt à droite ou à gauche sur votre matelas, Christophe ?
Moi, je suis à gauche.
Bon, selon une étude britannique, vous allez entendre. En tout cas, cela fait une sacrée différence, Sophie Jousselin.
Et oui, c'est prouvé, quand on dort à droite, on se lève du pied gauche. Le dormeur qui occupe la partie droite du lit est plus souvent égocentrique, pessimiste et ronchon. Alors si c'est votre cas et si vous voulez un réveil joyeux, léger, avec une folle envie d'aller travailler, eh bien au moment de vous mettre sous la couette, choisissez le côté gauche du lit. Si la place est occupée, éjectez votre moitié à droite. Mais attendez-vous à ce que demain matin, il ou elle vous fasse peut-être un petit peu la gueule devant son bol de café. Mais là où ça se complique, c'est qu'entre en jeu aussi, selon une autre étude, la position dans laquelle vous dormez. Si vous passez la nuit sur le côté droit comme un i, vous êtes supposé être détendu, désinhibé, donc quelqu'un de plutôt sympa. Sauf que si vous dormez dans cette position, mais à droite du lit, vous êtes aussi ronchon. Et à contrario, si vous dormez à gauche, mais sur le côté, le dos légèrement voûté, vous êtes à la fois optimiste, de bonne humeur, mais aussi cynique et complexe. Bref, on n'y comprend rien. C'est vraiment une histoire à dormir debout.
Vous êtes à gauche et voûté.
Ah, ça y est,
mais c'est optimiste, c'était sympa.
À gauche et voûté.
Bah oui, bah, vous êtes optimiste et joyeux.
Est-ce que vous regardez dormir?
Moi, je suis à droite.
Vous regardez dormir, vous filmez, vous regardez comment vous dormez. Il faut dormir seul, finalement, quelque part. On n'est pas embêté.
Allez. Le foot ce soir, oui. Fil rouge.
On va à droite et à gauche. Allez, on va à Marseille et à Bordeaux. C'est grand écart. On commence par Marseille, Marseille-Groningen. Tout va bien, Jean-Luc Pacul, pour Marseille ?
Ah non, tout va très mal depuis 30 secondes, puisque les Marseillais avaient ouvert le score par Georges Kevin Nkoudou après une frappe magnifique de Batshuayi, repoussée par Pad, le gardien de Groningue. Et puis là, à l'instant, eh bien, mauvaise communication dans la défense marseillaise, et c'est Maduro, le numéro 23 de cette équipe de Groningue, qui vient d'égaliser à la 50e minute. Ça va mal pour des Marseillais. Vous savez qu'ils sont pour le moment troisième de leur groupe, qu'il fallait une victoire ce soir. C'est pas terminé, hein, mais qu'il fallait une victoire ce soir et puis une victoire à Liberec le 10 décembre prochain pour terminer deuxième du groupe et donc se qualifier.
Mais pour
c'est pas bon du tout.
On va attendre, Jean-Louis. Il y a un but partout. Pour l'instant, il y a encore de l'espoir pour cette équipe de Marseille, troisième de son groupe. Pour Bordeaux, en revanche, il faut gagner ce soir. Après, ce sera trop tard. À Liverpool, Denis Granjou.
Ouais, même un match nul, ça permettrait peut-être de garder une petite chance avant de recevoir le Rubin. Mais pour l'instant, les joueurs de Willy Sagnol sont menés 2-1. Pourtant, Bordeaux qui avait ouvert le score par Henri Cévé. Et puis ensuite, il y a eu cette égalisation sur pénalty du capitaine de Liverpool, Milner. Et puis un superbe but de l'international belge, Benteke, juste avant la mi-temps. But assassin, ça fait du mal aux joueurs de Willy Sagnol qui vont devoir donc tout faire maintenant pour essayer de revenir au score. Mais il y a une bonne stat. Sachez que Bordeaux a joué 5 fois en Angleterre. Et Bordeaux a perdu 5 fois.
Voilà, donc, c'est une bonne stat. Merci beaucoup pour les supporters bordelais, Denis Granjou, qui nous écoutent ce soir sur RTL. Denis Granjou, Jean-Luc Pacul, Bordeaux et Marseille, on reste en fil rouge, bien sûr. Et avant de revenir à vos chroniques habituelles, 3 minutes pour comprendre, nous invitons par Adémat tout à l'heure.
La météo.
La météo.
Avec vous, Louis Baudin. Bonsoir, Louis.
Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Demain, on retrouvera de nouveau un temps souvent très nuageux, surtout au lever du jour, avec de la grisaille, parfois accompagnée de brouillard de la vallée de la Saône, par exemple, au nord-est. Il n'y a que tout près de la Méditerranée que le ciel restera dégagé avec encore du Mistral et de la Tramontane en cours d'après-midi. Toujours beaucoup de nuages, principalement dans l'ouest et le nord-ouest, plus précisément à l'ouest du ligne Bordeaux-Lille. Des nuages et même quelques pluies, notamment au bord de mer, à l'est de cette ligne. On conservera un temps sec, mais avec également beaucoup de nuages, quelques éclaircies éclaircies quand même, puis toujours beaucoup de soleil près de la Méditerranée avec du vent. Les températures, l'après-midi, 3 à 5 degrés seulement de la région Rhône-Alpes au nord-est, mais 8 à 12 degrés ailleurs, jusqu'à 15 degrés même à Ajaccio.
Merci beaucoup Louis. Dans un instant, 3 minutes pour comprendre, on va parler évidemment de l'hommage national prévu demain, programmé demain à 10h30 pour les victimes d'attentats du 13 novembre. Les clics à la une, l'actualité du net juste avant 22h30, puis l'écho 2.0, les sports et notre invité ce soir dans Signe Agnès, mademoiselle, madame
Carmen Maria Vega.
Juste avant 23h, à tout de suite.
RTL Grand Soir.
3 minutes pour comprendre.
3 minutes pour comprendre comment va se dérouler demain l'hommage national aux victimes des attentats du vendredi 13 novembre. Ça se passera à Paris, on le sait, aux Invalides. Avec nous ce soir pour évoquer donc cette cérémonie, Olivier Boss du service politique d'RTL. Bonsoir à vous.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
On sait déjà que cette cérémonie va donc durer une heure, en commençant très précisément à 10h30, Olivier.
Oui, avec 2000 personnes dans cette majestueuse cour des Invalides. Et c'est du jamais vu, hein, par le nombre, bien sûr. Et en plus, il s'agit normalement, dans ce lieu, d'hommage militaire. Là, il n'y aura quasiment que des civils. Le seul aspect militaire de la cérémonie, ce sera au tout début, avec la garde républicaine. Elle ouvrira la cérémonie au moment de l'arrivée du chef de l'État avec une Marseillaise. Ensuite, les noms des 130 victimes, prénoms, noms, âges, seront égrenés. Vous pouvez déjà imaginer l'émotion à ce moment-là. La majorité des victimes avaient moins de 35 ans. Ensuite, le président de la République fera un discours. En fond, ce seront les arcades de cette cour des Invalides avec les drapeaux français et européens. Aucun décorum particulier. En face de lui, il y aura regroupé dans les tribunes les familles des victimes et des blessés. Toutes les familles ont été contactées et invitées à venir. Et très majoritairement, on va y revenir, à de rares exceptions, elles ont dit oui pour assister à cette cérémonie. À leur côté, il y aura les héros aussi de cette soirée d'horreur, ces anonymes qui ont sauvé des vies, les secouristes et les forces de sécurité. Et puis, il y aura les officiels d'anciens premiers ministres comme Jean-Pierre Raffarin et Lionel Jospin, le gouvernement et puis toute la classe politique actuelle qui sera au grand complet. L'échiquier sera représenté de l'extrême gauche à l'extrême droite, de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par Jean-Christophe Cambadélis et Nicolas Sarkozy. Ils assisteront à la cérémonie et n'ont pas prévu ensuite de s'exprimer.
En face d'eux, donc, vous le disiez, hein, Olivier, en face des tribunes, le président seul qui va faire son discours. Sait-on déjà ce soir quelle va en être la teneur?
Alors, ce qu'on sait, c'est que François Hollande travaille encore en ce moment même sur ce discours et qu'il y travaillera probablement encore demain matin. Son idée générale, c'est d'abord de parler des victimes, hein, de cette jeunesse qui a été frappée et qu'on évoquait. Le chef de l'État expliquera que ce sont nos valeurs, nos modes de vie, notre liberté qui ont été attaqués. Et dans ce discours de 20-25 minutes, François Hollande défendra enfin la vie par-dessus tout. C'est en vivant, comme nous l'avons toujours fait, que nous pouvons résister au terrorisme. Ça sera son message. Il y aura donc demain des images, un discours et une Marseillaise entonnée à la fin par 2000 personnes. Au-delà de l'émotion, c'est ce qui restera dans la mémoire collective.
Alors Olivier, vous l'avez dit, certaines familles ont refusé de se rendre demain aux Invalides. Sont-elles nombreuses et quelles en sont les raisons?
Non, en fait, ce sont quelques familles qui ont refusé sur les centaines qui ont été conviées. Elles ont décidé de ne pas venir et elles l'ont fait savoir. Elles considèrent que l'État, plus précisément le gouvernement, en fait, n'a pas fait ce qu'il fallait faire. François Hollande, c'est le reproche qu'elles expriment, hein, aurait dû prendre plus de mesures sécuritaires depuis les attentats de janvier contre Charlie Hebdo et l'hypercacheur. C'est un reproche qu'exprime aussi, depuis la semaine dernière, l'opposition, en particulier les Républicains. Un détail quand même, hein, sur les familles qui ont décidé de venir. Elles ont souhaité demain ne pas être filmées de près, c'est-à-dire qu'on peut largement les comprendre, hein. Les télévisions sont invitées à ne pas zoomer sur les visages, à ne pas montrer ce qui sera certainement encore demain matin très douloureux. Deuxième détail, ce qui n'est pas inscrit dans le déroulement de la cérémonie, c'est que François Hollande ira probablement voir ses familles et ses blessés à l'issue de son discours. Le chef de l'État, comme sur tous ces moments tragiques pour la nation, on le sait, montre beaucoup de compassion. Il écoute longuement, il rassure celles et ceux qui sont endeuillés.
Et dès 4h30 avec Stéphane Carpentier dans RTL Petit Matin et à 7h dans RTL Matin mené par Yves Calvi. RTL s'associe à cet hommage. Dans chaque journal, nous diffuserons le portrait d'une des victimes ainsi que des témoignages de leurs, oui, proches.
Et beaucoup d'invités, hein, comme demain Laurent Fabius ou Anne Hidalgo. Et puis une édition spéciale à partir de 9h, 9h, 9h30 avec Alain Duhamel aux côtés d'Yves Calvi, de Stéphane Bern notamment. Et à midi, évidemment, grand dossier. Après cette matinée ô combien particulière, vous serez d'ailleurs, hein, Olivier Bost aux côtés de Brice Eugénie et de Pierre Julien pour rendre compte sur RTL de cette cérémonie. Merci à vous, Olivier Bost du service politique.
Merci, Olivier.
RTL.
À demain.
Football, le fil rouge ce soir, Marseille et Bordeaux, Marseille-Groningen, Jean-Luc Pacul.
Toujours un partout à 33 minutes de la fin du match.
Liverpool-Bordeaux, Denis Grandjou.
Toujours 2-1 pour les Reds de Liverpool à 33 minutes aussi de la fin de la rencontre.
Et je vous rappelle la qualification soir de Saint-Etienne. Monaco devra patienter après sa défaite 2-0 de Vanderlecht. Vous savez compter, Agnès?
Moyen, je...
Moyen, ça tombe
direct.
Bien. On va voir ça. À tout de suite.
RTL Grand Soir.
Christophe, si je vous dis 6 fois 8, vous me dites ?
Oh là là, il faut que je recommence à compter ?
Exactement.
Non, 48 donc.
Merci Christophe. 48, alors on va parler...
Ah, merci madame.
On va parler justement avec Nathalie Mons qui vous félicite, qui est la présidente du CNESCO, le Conseil National d'Évaluation du Système Scolaire, dans un sujet qui n'est pas si drôle que ça. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Alors, selon le CNESCO, hein, ce conseil que vous présidez, eh bien, une étude, oui, est assez alarmante. Environ 40% des élèves, lorsqu'ils sortent du CM2, ne maîtrisent pas les bases élémentaires en mathématiques.
Oui, tout à fait. On se rend compte aujourd'hui que il y a vraiment chez certains élèves des grandes difficultés en mathématiques. Alors, quand on dit ne pas maîtriser les bases, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, que on a vraiment sur des apprentissages ultra basiques comme la connaissance de grands nombres, hein, l'écriture de grands nombres au-delà de 10 000, par exemple.
Oui, si on écrit 156 000.
Un élève sur 4 qui ne parvient pas à écrire un grand nombre, c'est-à-dire même 12 000.
Ouais, même 12 000. 180, dès 12 000, d'accord. Hein.
On a aussi grande difficulté sur, par exemple, la soustraction à retenue. 20% des élèves, à la fin du CM2, ne maîtrisent pas ce type de soustraction. Mais... Et sur, finalement, une compétence qu'on peut imaginer comme assez basique, puisque vous savez que dans l'enseignement primaire, vous apprenez évidemment l'addition, la soustraction, avec ou sans retenue, mais également la multiplication. Et puis, vous allez vers la division. Donc, on voit bien là qu'il y a quand même 20% des élèves qui sont très, très loin de compétences en calcul. Quand on s'intéresse aux nombres décimaux, là, on se rend compte alors là, qu'il y a des difficultés qui sont beaucoup plus généralisées. Par exemple, vous avez 50% des élèves qui ne sont pas capables de faire une correspondance entre une fraction, par exemple un quart, et l'équivalent en chiffres.
Ah, 0,25, vous voulez dire
pas... Voilà, exactement. D'accord. Tu n'as pas qu'un quart, c'est égal à 0,25.
À quoi sont dues ces lacunes ?
Eh bien, on se rend compte, en fait, aujourd'hui, qu'il faut vraiment développer des nouvelles méthodes pédagogiques. Hein, et vraiment, les recommandations de cette conférence de consensus vont dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils donnent de nouvelles orientations pour que les pratiques pédagogiques des enseignants dans les classes au primaire puissent évoluer. Parmi les recommandations, par exemple, il y a vraiment celui de faire manipuler des objets le plus possible aux enfants.
Des allumettes, enfin pas des allumettes, mais des crayons, tout ça.
Des allumettes, des billes, etc. Alors la manipulation, elle est assez développée, par exemple, en maternelle. Hein. On compte des billes, lorsqu'on vous dit de les additionner, on prend des billes, on prend trois billes, et puis d'un côté, on en rajoute cinq, etc. Donc, il y a des habitudes de manipulation en maternelle, et par exemple, ça se perd quasiment dans la suite de la scolarité au primaire, alors que les enfants vont devoir aborder, par exemple, cette notion de fraction, comprendre que 1 sur 4, c'est un quart d'un tout, c'est extrêmement compliqué. Or, il y a des recherches qui nous montrent que, là encore, si on les fait, par exemple, manipuler...
Un gâteau.
Sous forme, voilà, un gâteau, hein, des parts d'un gâteau sous forme de bois, hein, eh ben, ils vont pouvoir comprendre vraiment ce que veut dire 1 sur 4. Alors que lorsqu'on en reste au formalisme mathématique, vous voyez un trait et puis ensuite 4, beaucoup d'enfants, tout ça reste extrêmement
virtuel,
abstrait. Ils n'arrivent pas à mettre du sens derrière les nombres.
Ah, c'est pour ça qu'Agnès, elle ne sait faire que le 4 quarts, effectivement, comme gâteau. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Y a des mnémotechniques. Moi, je me souviens, par exemple, pour l'alphabet, on pouvait chanter façon Chantal Goya, ABC, D, E, F, G, H. Non, c'est une façon de le retenir.
Vous avez raison, la mémorisation est quelque chose d'important. Voilà. Il y a des enfants qui ont des compétences différentes. Il y en a qui vont avoir une mémoire auditive. Donc, les chanter, c'est important. Il y en a qui, au contraire, vont avoir une mémoire visuelle. Donc, les voir, c'est important. Mm-hmm. Dans tous les cas, et là, c'est aussi une des préconisations de cette conférence de consensus, il faut que les enfants aient acquis un certain nombre d'automatismes. Mmh. Et ces automatismes passent par une mémorisation, on peut dire quasiment un apprentissage par cœur, d'étapes d'addition, d'étapes de multiplication dans leur ensemble. Hein, on sait que, par exemple, la table de 7, la table de 8, ce sont des tables qui sont particulièrement difficiles à apprendre pour les enfants. Mmh. Il faut également qu'ils apprennent les doubles. hein, quand ils sont dans une classe, les multiples de 5, de 25, de 50, etc. Alors, ça sert finalement après à pouvoir s'engager dans des calculs plus complexes. Oui. Vous imaginez bien que quand vous faites, par exemple, une multiplication avec 3 chiffres en haut, 4 chiffres en bas, et qu'il faut après, en plus, au-delà de multiplier chacun des chiffres 5 fois 4, vous souvenir qu'il y a une retenue, etc. Vous ne pourrez aller jusqu'au bout de cette multiplication que si le 5 x 5, vous savez par cœur que ça fait 25.
Et donc, apprentissage par cœur pour pouvoir passer ensuite dans les grandes écoles.
Ce qui est étonnant, c'est qu'on l'ait perdu, parce que moi, je me souviens, c'était du par cœur.
Non, mais à qui, c'est très difficile, peut-être, Agnès, aussi de...
Non, mais moi, c'est difficile, je vous rassure.
On l'a pas perdu. Hein. Attention, soyons concrets, on l'a pas perdu. C'est-à-dire que si vous regardez les programmes depuis les années 90, ils insistent sur, justement, le calcul mental, la mémorisation. Mais dans certaines classes, on peut aussi penser que tout ça doit être déporté dans les familles. Or, vraiment, il est central que, à la fin du primaire, les enseignants se donnent comme objectif de mémoriser tout un ensemble de connaissances de ces types-là.
D'accord.
Ce qui est également préconisé, hein, c'est vraiment de privilégier le calcul mental sur ce qu'on appelle le calcul posé. Bon, calcul posé, vous savez, c'est poser une addition, une multiplication, etc. par écrit. Et on se rend compte aujourd'hui que dans l'école française, parfois, on privilégie justement ces calculs posés au détriment du calcul mental. Donc, c'est très important de privilégier le calcul mental sur le calcul posé.
Et la meilleure combine, alors, pour compter le plus vite ? Allez,
vous
madame le professeur.
Hein, c'est comme la musculation. Plus on fait de calcul mental, avec des stratégies pour faire du calcul mental. Quand je dis stratégie, par exemple, si je vous dis 15
allez-y.
Plus 7,
c'est
par
bon.
Exemple,
22.
Et ben vous avez une stratégie. Vous allez me dire, ben 15, je
plus
fais
5.
15 plus 5,
et plus 2.
À 20,
moi je vais direct,
2.
Moi. Moi voilà. Je vais direct, moi.
Hein, donc il y a des stratégies. Ça prend le calcul mental.
Nathalie Mons, je rappelle que vous êtes la présidente du CNESCO, le Conseil national d'évaluation du système scolaire. Merci beaucoup.
Au revoir.
22h, 23h, RTL Grand Soir.
Christophe Paco, Agnès Bonfillon.
Depuis toujours sur RTL, vous êtes nos experts du quotidien.
Ce métier est devenu de plus en plus difficile.
13h, 14h, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Moi, j'ai trouvé que c'était formidable.
Moi, je suis pas d'accord.
Une heure pour témoigner, réagir et proposer vos solutions.
Ça traduit la réalité quotidienne.
RTL Midi et les auditeurs ont la parole, l'info qui vous ressemble.
Tout le monde essaie de faire avancer les choses.
Chaque midi dès 12h30 avec Christelle Robière et Vincent Parizeau sur RTL.
À demain.
12h30 sur RTL.
RTL Grand Soir.
Clics à la une.
Clics à la une, comme tous les soirs, toute l'actualité du net, et plaisir d'accueillir.
Mais oui,
Julien Absalon.
Julien Absalon, bienvenue Julien, bonsoir.
Bonsoir.
Et tout ce qui a cliqué, tout ce qui a buzzé, hein, comme tous les soirs, on commence avec les Anonymous qui continuent de défier l'État islamique. Depuis les attentats de Paris, ces activistes du web mènent des opérations sur les réseaux sociaux pour nuire aux groupes djihadistes. Et cette fois, Julien, ils ont décidé de faire ça en chanson et avec humour.
Et oui, tout à fait. Alors, pour rappel, les Anonymous, c'est un collectif d'internautes qui agit, comme son nom l'indique, de manière anonyme sur le web. Et ces derniers jours, ils avaient dénoncé tout un tas de comptes Twitter connus pour soutenir l'État islamique. Mais comme il ne manque pas d'idées, les Anonymous ont décidé de tendre un piège aux utilisateurs de Twitter qui cherchent des vidéos de propagande de Daesh. Et en fait, ils inondent Twitter de messages avec le lien d'une vidéo YouTube qui peut laisser penser que c'est une de ces vidéos de propagande. Sauf que quand l'internaute clique, il tombe sur ça.
Alors, ce que c'était entendez... qui ? Je m'en rappelle
c'était plus. Eric Ashley.
Exactement, c'est ça, c'est Never Gonna Give You Up.
Ah oui.
Never Gonna Give You Up.
Exactement, et en fait ça a fait un carton sur le web il y a quelques années parce qu'il y avait un phénomène appelé Rickroll et qui justement consistait à tromper les internautes en leur envoyant un lien vers cette chanson alors qu'en fait ils s'attendaient à tout autre
mais
chose.
Mais c'était pas que sur le net hein, parce que Paco il dansait dessus. Hein,
bah oui, c'est
donné.
Mon époque. On va rester dans la musique avec votre copine Adèle.
Ah encore
bah oui,
ça faisait longtemps.
Non mais quand même, la chanteuse britannique a fait plaisir à ses fans français, ça y est, avec une annonce. Mon cher Julien, de la plus grande importance.
Et oui, tout à fait. Adèle, c'est le carton du moment dans les hit-parades. Son tout nouvel album 25, autrement dit 25 en français, est sur le point de réaliser le meilleur démarrage de l'histoire de l'industrie musicale. Et son single Hello est diffusé absolument partout. Voilà, et donc aujourd'hui, sur Twitter, Adèle a annoncé qu'elle allait faire une tournée en Europe l'année prochaine. Une annonce qu'elle a faite dans un petit message vidéo qui commence avec les paroles de Hello, justement.
Hello, it's me, Adèle.
Génial. Voilà. Et pour génial. Exactement. Et pour le plus grand plaisir de ses fans, elle a dévoilé deux dates de concert en France. Ce sera à Paris pour les 9 et 10 juin prochains à l'Accor Hôtel Arena de Paris-Bercy.
9 et 10 juin. Mais 10 juin, c'est l'ouverture de l'Euro 2016.
Ah, vous ne pourrez pas y aller.
Si, le 9, puisque c'est le 10.
Ah, ben bah voilà. Eh bien,
je ne vous emmènerai pas. Voilà.
Et du coup, j'imagine que les fans doivent être ravis.
Ah, ils sont totalement ravis. Ouais. De toute façon, on peut voir le message Twitter a été retweeté plus de 9000 fois.
Ah, oui, quand même.
Et quand je serai là-bas le 9,
vous nous tweeterez.
Non,
avec
je vous ferai hello.
Très bien, drôle. On termine avec le top 3 sur le site RTL.fr. Quels sont les articles qui ont été les plus consultés, Julien?
Alors, en numéro 1, il y a Black Friday, les bonnes affaires des grandes enseignes, car demain, en fait, il y aura de nombreuses promotions dans mon commerce. En numéro 2, comment va se dérouler l'hommage aux victimes des attentats qui a lieu demain aux Invalides? Donc, c'est une info RTL.
Oui, dont on a parlé il y a quelques instants avec Olivier Bost. Ouais.
Exactement. Et en numéro 3, comment faire pour se procurer un drapeau français pour demain? Parce qu'il y a rupture de stock dans plusieurs magasins.
Avant 10h30 demain matin.
Merci mille fois, Julien Absalon.
Merci et à bientôt, Julien.
On va le dire quand même, c'était sa première ce soir avec nous.
Ah ben voilà, ravi.
Merci, revenez quand vous voulez.
22h, 23h, RTL Grand Soir.
Christophe Paco, Agnès Bonfillon.
Et Julien Cellier pour les essentiels de l'actualité. Bonsoir Julien.
Bonsoir à tous. François Hollande et Vladimir Poutine unis à Moscou. Un entretien, puis une prise de parole face à la presse. Les deux dirigeants qui ont choisi de coopérer face au groupe État islamique.
J'ai indiqué au président Poutine que la France souhaitait travailler avec la Russie au service d'un objectif clair, simple. Combattre Daesh et les groupes terroristes. Et eux seuls. Nous allons augmenter les échanges d'informations et de renseignements. Les frappes contre Daesh seront intensifiées et feront l'objet d'une coordination pour augmenter leur efficacité et notamment sur le transport du pétrole.
Un point de désaccord toutefois, et pas des moindres. Pour François Hollande, Bachar al-Assad n'a pas sa place dans la Syrie de demain. Le chef de l'État qui présidera l'hommage national aux 130 victimes des attentats demain matin aux Invalides, matinale spéciale dès 4h30 jusqu'à 9h30 sur RTL avec dans chaque journal des portraits de disparus et des témoignages de leurs proches. À Tunis maintenant, 30 interpellations aujourd'hui après l'attentat de mardi, attentat kamikaze revendiqué par Daesh. L'auteur a été identifié, il est tunisien. Il s'est fait exploser dans un bus de la garde présidentielle, bilan 12 morts. La rechute, et quelle rechute! Le chômage augmente fortement en octobre, 42 000 demandeurs d'emploi supplémentaires, hausse de 1,2%. La baisse de septembre est déjà oubliée. Myriam El Khomri, ministre du Travail.
Ces chiffres ne sont pas satisfaisants, mais ils doivent être regardés avec beaucoup de prudence. Ces chiffres doivent vraiment être analysés dans la durée et en tendance. Nous voyons bien, ces derniers mois, nous avons des variations particulièrement fortes d'un mois à l'autre.
À Bordeaux, dans un stade de légende, les Girondins jouent à Liverpool ce soir en Ligue Europe, Denis Grandjeau.
Oui, et pour l'instant, Bordeaux est éliminé de la Ligue Europe puisque Bordeaux est mené 2-1 par les Anglais de Liverpool malgré un but d'Henri Cévé. C'est compliqué pour les joueurs de Willy Sagnol. Il reste un quart d'heure. Il faut absolument tout donner pour, pourquoi pas, arracher le match nul qui permettra aux Girondins de garder une toute petite chance.
De son côté, Marseille accueille les Néerlandais de Groningue, Jean-Louis Bacul.
Ouais, même difficulté pour des Marseillais. Un but partout à 18 minutes de la fin du match. Même situation, si les Marseillais ne s'imposent pas ce soir, c'est quasiment fini pour la Ligue Europe.
Et un peu plus tôt, Monaco a perdu 2-0 à la maison face aux Belges d'Anderlecht et Saint-Etienne a fait match nul. Un partout chez les Norvégiens de Rosenborg, les Verts qui, eux, sont qualifiés pour les 16e.
Merci beaucoup, Julien Cellier. Tout à l'heure, on parlera foot avec vous, dès 23h, bien sûr, dans RTL, Grand Soir, l'espoir à venir dans 5 minutes, juste après l'écho 2.0 de Bénédicte Tassard. Et enfin, nous terminerons ce soir avec une rencontre de charme, une rencontre d'exception.
Carmen Maria Vega.
Voilà, à peine 30 ans, c'est ça ?
Et déjà une biographie.
Déjà une bio, 10 ans de carrière. Carmen Maria Vega, ne manquez pas le rendez-vous juste avant 23h.
RTL Grand Soir, l'écho 2.0. Bénédicte Tassard.
Et on commence avec le fait écho du jour. Bonsoir Bénédicte Tassard.
Bonsoir.
Altice malmené en bourse, mais ça n'empêche pas son patron, Patrick Drahi, de dépenser encore plus. Pour du football cette fois.
Oui, Altice vient d'acquérir les droits de diffusion en France du championnat anglais de football à la barbe de Canal+. Un coup dur pour les chaînes cryptées et un chèque de 300 millions d'euros pour les droits de diffusion sur 3 ans. C'est une estimation du quotidien Les Échos. Et pourtant, Altice, propriétaire de SFR, qui va entrer aussi au capital de RMC et de BFM TV, connaît quelques déboires auprès des investisseurs en ce moment. Son état de grâce est terminé. 48 milliards d'euros de dettes. Ça devient de de plus en plus difficile pour Patrick Drahi de trouver de l'argent frais. Ça a été le cas pour le bouclage du rachat de l'américain Cablevision en septembre dernier. Les taux d'intérêt grimpent. Alors maintenant, Altice veut faire une pause dans les acquisitions, arrêter de grossir. Mais vous voyez, il investit quand même dans le foot.
L'invité Echo 2.0.
Et votre invité ce soir, Bénédicte, est Patrick Gross.
Bonsoir Patrick Gross.
Bonsoir Bénédicte.
Vous nous invitez à la fête ce soir avec votre start-up Easy Party, une plateforme collaborative.
Oui.
Agnès est à fond déjà.
Ah bah oui.
Et c'est pour louer chez des particuliers des lieux pour célébrer un mariage, un anniversaire. Combien de lieux peut-on trouver sur votre site?
Alors, pour l'instant, il y en a une cinquantaine. Évidemment, l'objectif, c'est d'en avoir beaucoup, beaucoup, des milliers. Pour que évidemment la plateforme soit efficace et que chacun puisse trouver des lieux adaptés et près de chez soi.
Bah, c'est pas toujours évident de trouver un lieu pour un anniversaire, pour un mariage, puis aussi il y a le budget qui rentre en compte évidemment.
Bien sûr. Alors décrivez-les-nous un petit peu ces lieux. Qu'est-ce qu'on y trouve sur votre site?
Des appartements avec des grandes salles, des grands jardins, parce que l'une des originalités de la plateforme, c'est aussi de proposer des salles de réception bien sûr, des châteaux, mais également des péniches. Des jardins, alors voilà, ça c'est un peu original, vu que la plateforme est ouverte aux professionnels bien sûr, mais aussi également aux particuliers.
Ah quand même.
D'accord. Voilà. Donc normalement l'offre elle est large. Et des jardins, c'est un constat très très simple. Il y a beaucoup d'anniversaires d'enfants et souvent on manque de place, manque d'idées, parce qu'une fois qu'on a fait les 2-3 complexes sportifs, il y a des jardins qui sont très très adaptés avec des balançoires, des trampolines, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer ça à la location pour quelques heures ou un après-midi.
Alors moi, je me pose une question quand même. Quand on est particulier et qu'on met un bien en location comme ça, même une après-midi, je sais pas, moi j'ai envie de fermer toutes les portes et de laisser juste le salon. Il faut tout déménager, il faut...
Évidemment, il faut quand même que l'habitation soit adaptée à la réception d'un certain nombre de personnes.
Vous allez les voir, vous, les lieux ?
Non. En revanche, on a tout un tas de recommandations sur la plateforme. Il y a des échanges, bien sûr, à travers la plateforme entre celui qui souhaite louer et celui qui propose la location. En gros, on essaye d'inspirer un peu la convivialité, de favoriser les échanges et pour que on soit bien d'accord sur le même bien.
Vous faites confiance à l'économie collaboration collaborative.
Et si j'ai envie de louer un petit château, un petit Versailles ?
Oui, c'est possible.
Ah, c'est sympa pour mon anniversaire.
Pour le mariage d'Agnès Bonfillon.
C'est tout à fait
qui
possible.
Qui se profile à l'horizon.
Non, bien sûr, mais il y a déjà des châteaux qui sont très très beaux.
Non,
bien
vrai.
Sûr, c'est possible.
Il y en a déjà ?
Bien
par
sûr,
exemple,
ouais, des châteaux.
On peut avoir une idée d'un prix, d'un endroit ?
Alors en général, donc le prix, il est à l'heure. Donc
à l'heure.
Ça, c'est des prix horaires, ouais. Alors,
2h du mat, les gars, vous partez.
Pour l'heure, on est de 10 euros à 600 euros. Donc,
600
pour un château.
La palette est très très large.
Alors moi, j'ai une autre question, c'est qui remet en place, qui fait le ménage ?
Ah voilà, le côté pratique, le côté pratique.
Mais non, parce que si je reviens chez moi le lendemain et que je trouve mon salon rempli de canettes de bière...
Moi, je pensais au DJ.
Et de cendriers pleins.
Alors l'idée justement, et ça on va le mettre progressivement en place, c'est de proposer des partenaires qui sont adaptés justement à ce type d'organisation. Parce qu'évidemment, traiteurs,
mais pour l'instant, c'est celui qui loue qui s'occupe de tout ça ou celui...
Pour l'instant, c'est vraiment une plateforme uniquement de location, de réservation. Mais évidemment...
Mais il faut le rendre propre.
Absolument.
Ah.
J'ai trouvé.
Ça y est, vous avez trouvé notre lieu.
Est-ce que vous voulez un petit manoir, par exemple, de la Bastille ?
Ah non, moi, un truc plus
10
simple.
10 euros de l'heure. Bah, 10 euros de l'heure, c'est simple.
C'est donné.
C'est donné, quand même.
Non, mais plus simple dans le sens, vous me dites manoir, si vous avez un petit jardin.
Un atelier d'artiste. Atelier d'artiste, c'est joli.
Ah bah oui.
88 euros de l'heure. En revanche, une péniche, c'est hyper cher.
C'est très cher.
600 euros de l'heure.
C'est très, très cher, mais c'est Paris.
C'est Paris.
Par exemple, j'ai un hectare en zone naturelle aux portes de Rennes.
Absolument, voilà. Typiquement, ça, c'est plutôt original. Exactement.
En tout cas, c'est une super idée parce que vraiment, vraiment, on galère pour trouver des lieux.
Ouais. Alors, j'ai une autre question pratique. Est-ce qu'il faut prendre une assurance ?
Alors justement, ça, c'est une question qu'on nous pose régulièrement, c'est
bien
normal.
Bien sûr, si ma moquette est tachée...
Voilà, à dire vrai, on ne le sait pas toujours. Finalement, on est couvert. En amont, on explique les bonnes pratiques.
Oui, bon, enfin, vous savez bien comme moi qu'après 2h du matin, on ne maîtrise plus tout.
Exactement.
On va parler pour vous, Bénédicte. Nous, à 7h du mat, on n'est pas fatigués.
En gros, chacun est assuré.
D'accord.
C'est-à-dire que chacun a une multi-risque habitation
civile,
pour celui qui loue l'habitation, et chacun a une RC, une responsabilité civile.
Bien sûr, oui.
Voilà. Donc en gros, s'il y a un problème, la transaction elle est faite sur la plateforme, donc on a la trace de cette transaction, de cette location, et donc après on active les garanties.
Même petit bureau en salle de réunion, ça me coûte 10 euros de l'heure.
Voilà, ça c'est également...
Pas mal, hein, ça.
Génial. Absolument. Voilà.
Bravo, monsieur Easy Party.
C'est une super
merci
idée.
Pour lui.
Merci Patrick Gross, vous avez fondé Easy Party, on vous souhaite le meilleur.
Merci.
On souhaite que vous deveniez donc le Airbnb de la fête.
Merci.
Et on peut retrouver votre interview sur le site rtl.fr.
RTL bouge.
RTL grand soir.
RTL sport.
Ça bouge en ce soir. Sans plus tarder, la Ligue Europa, les deux matchs en cours.
Pour Marseille et pour Bordeaux, compliqué pour Marseille tout d'abord devant Groningen, Jean-Luc Pacul.
Eh oui, à 12 minutes de la fin du match, toujours un but partout. Hein. Ouverture du score marseillaise par Georges-Kevin Nkoudou. Et puis, coup du sort, l'égalisation de Maduro, le capitaine de cette équipe de Groningue. Compliqué, hein. Il va falloir gagner à Liberec le 10 décembre prochain si les Marseillais veulent passer le tour.
À tout à l'heure, Jean-Louis Pacul. Liverpool-Bordeaux, fil rouge, Denis Grandjou.
Oui, et pour l'instant, les joueurs de Willy Sagnol, les Girondins de Bordeaux, sont éliminés de la Ligue Europe puisqu'ils sont menés 2-1. On y croyait pourtant, ils avaient ouvert le score par Henri Cévé à la 33e. Puis ensuite, il y a eu un but sur pénalty de Milner et puis un but de Benteke à la 45e. Benteke qui s'est vu refuser un but assez logiquement d'ailleurs il y a quelques minutes. Parce qu'à 3-1, c'était cuit. Mais pour l'instant, il reste une petite chance. Allez, 12-13 minutes à jouer encore à Anfield. Et les Girondins qui peuvent peut-être arracher l'égalisation, auquel cas ils auraient encore une toute petite chance.
Un peu plus tôt dans la soirée, Saint-Etienne a obtenu son billet pour les 16e de finale.
C'est bien, non? Partout. Hein. Ce soir pour Saint-Etienne en déplacement à Rosenborg. Satisfaction de l'entraîneur des Verts, Christophe Galtier, chez nos confrères de beIN Sport.
On sort de gros matchs en championnat, je répète, Paris, Lyon et Marseille, où nous avons perdu, et perdu des fois lourdement. On a su être toujours présent en Europa League, et c'était important, même avec l'absence de joueurs majeurs, de joueurs cadres, ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'état d'esprit a été irréprochable, la solidarité. Quand je vois un groupe qui a une réelle envie d'aller chercher une qualification, c'est toujours une grande satisfaction pour l'entraîneur que je suis. Et voilà, j'ai voulu communier avec mes joueurs sur ça.
Tout bon pour les Verts, donc. Et pour Monaco, ce sera plus compliqué, visiblement.
Oui, il fallait faire un résultat ce soir au moins à la maison, mais c'est une défaite au bout du bout. 2-0 contre les Belges d'Anderlecht. On va écouter la réaction de Vadim Vassiliev, c'est le vice-président de l'AS Monaco. Il est aux côtés de Mickaël Lefebvre.
Nous sommes tous déçus par le résultat, mais en même temps, c'était un de nos meilleurs matchs à domicile. Pourtant, en football, c'est pas les meilleurs qui gagnent. On aurait mérité mieux. C'est comme ça. Il faut accepter. On comprend que la situation est très compliquée, mais on va aller à Tottenham pour remporter une victoire et on va y croire jusqu'à la dernière moment, jusqu'au siffle d'arbitre.
Oui, il faut attendre évidemment la ligne d'arrivée la dernière journée. Dans 15 jours, Monaco à Tottenham pour une qualification.
Retour sur la performance des Parisiens hier, vainqueur 5-0, hein, avec un maillot collector, un maillot spécialement conçu, on le rappelle, pour un hommage du club aux victimes des attentats de Paris.
Oui, maillot noir avec l'inscription « Je suis Paris » en lieu et place de l'habituel sponsor du club. Alors un maillot que beaucoup aimeraient porter suite aux événements et après cette rencontre victorieuse. Alors vous qui suivez le Paris Saint-Germain toute l'année, Philippe Sanfourche, pourra-t-on l'acheter par exemple dès demain ?
Non, et pourtant le PSG a bien envisagé hein, dans un premier temps de commercialiser ce maillot dont le bénéfice des ventes aura évidemment été reversé à des associations venant en aide aux victimes. Mais la réflexion s'est vite arrêtée là au regard des contraintes de fabrication que l'équipementier Nike impose au PSG. C'est en effet plusieurs mois à l'avance que le géant américain planifie ses volumes de production pour des exemplaires précis et ce dans chacune de ses usines à travers le monde. Produit en grande quantité, le maillot « Je suis Paris » serait donc sorti au mieux au printemps prochain. Pas de passe-droit pour le PSG, client parmi tant d'autres, entre les licences de NBA ou encore de hockey sur glace. Rédhibitoire, cette contrainte évite aussi au PSG un malaise vis-à-vis de Fly Emirates, un des principaux sponsors du club. La compagnie aérienne qui paye en effet très cher, plusieurs dizaines de millions d'euros par an, pour s'afficher sur chacun des maillots vendus par le club parisien.
Merci beaucoup Philippe Sanfourche. Et il y a commission de discipline de Ligue 1 hein, ce soir.
Entendez beaucoup, oui, parce qu'il y avait notamment, vous savez, ces fameux événements entre Saint-Etienne et Lyon. Il y avait un stadier qui avait été blessé en ramassant un pétard dans le stade Gerland. Eh bien, c'est un huis clos partiel qui a été requis pour la rencontre de demain hein, face à Montpellier. Donc deux virages fermés, Coubertin Nord et le virage Tony Garnier pour les habitués. Tony Garnier Sud pour les habitués de Gerland. Et puis également, cet Olympique Lyonnais s'est vu sanctionné d'un match à huis clos total avec sursis donc pour les supporters lyonnais.
On passe au tennis. Finale dès demain de la Coupe Davis entre la Belgique et la Grande-Bretagne. Ça se passe à Gand, dans un pays toujours en niveau d'alerte élevé. Hein.
Oui, notre envoyé spécial, Hervé Veugue, a rencontré en cette veille de match le secrétaire général de la Fédération belge de tennis. Il s'appelle Jes Koeken et il revient sur ses mesures exceptionnelles.
La mesure principale est venez à temps parce que vous risquez de perdre plus de temps que normalement pour entrer le site. Pas amener des sacs parce que les sacs ne seront pas dans le stade. Donc ça, ce sont des mesures visibles qu'on communique. On a encore des mesures visibles qu'on ne communique pas parce que ça fait partie d'un plan de sécurité et pas communiquer de tout ça, c'est aussi important. Et à côté de ça, il y a aussi des mesures non visibles. On a un gouvernement qui ose dire on recommande pas organiser cet événement, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu le message qu'il y aura un problème avec la finale de Coupe Davis. Nous suivons la situation de très près, mais aussi les autorités.
Coupe Davis demain, donc, entre la Belgique et la Grande-Bretagne. On en parlait hier soir, Agnès, au niveau de la Fédération internationale d'athlétisme. On sait que c'était compliqué pour le président Sébastien Coe. Il a pris une mesure, en tout cas importante, le président Sébastien Coe. Il a décidé de quitter son poste d'ambassadeur de Nike pour qu'il n'y ait plus de confusion. Il s'explique aux côtés de Julien Fautra.
Tout ce qui se passe autour de mon rôle d'ambassadeur de Nike n'est pas bon pour la Fédération internationale, n'est pas bon non plus pour Nike. Et sincèrement, ce n'est qu'un moyen, je pense, de détourner l'attention de ce sur quoi nos équipes travaillent actuellement. Et par ailleurs, je quitterai mes fonctions de président de comité olympique britannique, et ce, après les Jeux de Rio l'an prochain.
Sébastien Coe, Julien Fautra, deux défaites pour nos basketteurs français ce soir. Et pour Strasbourg et pour Limoges, battu Strasbourg par Fenerbahçe 80-64 et Limoges 78-69. Je voulais pas terminer sans souhaiter un bon anniversaire à Robert Marchand, Agnès. Il est magnifique, Robert Marchand. Il a 104 ans, il s'est offert une sortie de 22 km aujourd'hui. Écoutez-le sur les routes du Tour de France prochain, aux côtés de Nicolas Georgerot.
Il fait 22 km. C'est 22 km qui en valent presque le double. Avec le parcours qui est très dur. À la fin du compte, ça s'est bien passé. Il y avait beaucoup de monde. J'étais beaucoup encouragé. Dans le col, j'ai quand même eu un petit peu coup dur parce que ça, c'était vraiment dur. Mais enfin, ça a été quand même. C'était vraiment sympathique. C'était très bien. Je suis très, très content de ma journée. Les gens ne se rendent pas compte, mais à 104 ans, c'est pas de la rigolade.
Wow. C'est génial. Hein,
un bel anniversaire à lui.
C'est un beau cadeau qui s'est offert en tout cas, puisque ces 22 km font partie du tracé d'une épreuve dans l'Ardèche, d'une journée de course en tout cas pour le 13e, ce sera la 13e étape du Tour de France.
Retour au football et la Ligue Europa 1 pour faire un nouveau point sur Marseille et Bordeaux.
Marseille, Jean-Luc Pacul, rapidement.
86e minute, il y aura peut-être 2-3 minutes de temps additionnel parce qu'il y a eu des changements, toujours un but partout. L'OM devra aller batailler à Liberec dans 15 jours pour espérer
se qualifier pour les 16e de finale. Et puis Liverpool-Bordeaux, Denis Grandjean.
88e minute à Anfield et Bordeaux pour l'instant éliminé de la Ligue Europe avec ce score en faveur des joueurs anglais. Ils mènent 2-1, donc à 3 minutes de la fin, il y aura un petit peu de temps additionnel. Et Bordeaux, d'accord, bien sûr, qui donne tout pour arracher le match nul.
A tout à l'heure, messieurs, évidemment, pour la suite et la fin de cette rencontre, juste après avoir reçu comme il se doit
Carmen Maria Vega.
Ce sera signé Agnès dans 30 secondes.
RTL Grand Soir.
Signé Agnès.
Je l'ai tellement dans la peau. S'approche, c'est fini, je suis à lui. Quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chose.
Signé Agnès, quelle belle déclaration ce soir, ça me fait plaisir.
Bah, c'est pas moi qui chante, et je pense pas que ce soit vous l'objet de cette chanson.
Vous êtes sûr?
Vous allez demander à Carmen Maria Vega.
Oui,
bonsoir,
sans plus tarder,
Carmen.
Bonsoir.
Merci d'être là. Alors, Carmen Maria Vega, vous la connaissez forcément parce que cette année, on en a beaucoup, beaucoup parlé dans la presse, à la télé, elle est partout, elle est Miss Saint-Guette depuis 2014. Une comédie musicale qui cartonne, qu'elle porte sur ses épaules malgré une sublime équipe.
Tout à fait.
Évidemment. Tout à fait.
C'est primordial. Oui, quand même. Sans eux, je serais un petit peu embêtée.
Alors, aujourd'hui, on vous reçoit, Carmen, pour un objet magnifique, mais en même temps, très étonnant, une biographie sur vous.
Sur une personne encore vivante.
Et de 31 ans, s'il vous plaît.
Me donne pas l'âge, Agnès, quand même.
Bah, d'une jeune personne.
5 ans. Dis pas ça, les gens du cinéma, ils disent que t'es vieille à 30 ans.
Alors, elle a 17 ans, la dame.
Il y a les footballeurs, généralement, qui font ça à 30 ans. Hein.
Donc, sublime biographie signée Pierre-Yves Paris. On a l'impression, en fait, Carmen, quand on ouvre ce livre, d'être dans un carnet intime. Vous savez, un carnet que vous gardez tout au long de votre vie, puis vous mettez toutes les choses importantes, que ce soit des petits mots, que ce soit des photos,
des billets de spectacle, des répétitions, tout ça.
C'est ça.
C'est ça. C'est un peu ça.
Bah, c'est un peu là, ce qu'a voulu Pierre-Yves dans le format. Ça ne l'intéressait pas de faire quelque chose de trop romancé non plus, ni de faire un bouquin exclusivement de photos. Il avait envie d'avoir des choses un peu uniques. Donc c'est vrai que ça a été 16 mois de boulot intense pour lui. Il y a 150 témoignages, donc déjà beaucoup de gens arrivaient à choper avec les calendriers de chacun. Et c'est ce qui fait que du coup, c'est à la fois intime, c'est pas trop impudique non plus, parce que j'avais pas envie qu'il aille trop en profondeur à certains endroits, voilà, comme tout le monde. Mais il a été très respectueux. C'est un super bouquin. Je m'attendais pas à ce que ça fasse 200 pages. Hein. Même moi, j'étais hyper, hyper étonnée quand il est venu déjà.
Vous imaginez à 80 ans ?
Bah ouais.
Il va y avoir je sais pas combien de volumes.
Imagine.
Vos notes à l'école également, ça c'est incroyable ça.
Ah oui, mais c'était très très bon.
Vos premières chansons, vos premiers spectacles, devant les copains quoi, en seconde, en première, c'est ça ?
Ah, c'est génial. Ouais, le premier spectacle, ouais, c'est ça. C'est génial.
16 ans devant Lyon, voilà, devant la famille, les amis, au Transborder.
Vous disiez des bonnes notes.
À mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Finalement, me disait Johnny que je t'aime. Toi, t'as du talent, hein. À moi, à vous. Merci. Bah, moi, je m'en fiche. Et plus quand je me suis dit, vaut mieux faire semblant plutôt que de passer pour une cruche. Je fais croire que je suis l'autre fille de Mitterrand. Et pour alimenter le mythe, c'est moi qui ai l'arc. Johnny dit Playboy, s'en remettra, bah il est grand. Il était mielleux, il était chiant. À mes amis, rien que je mens. À
menteuse, c'est sur ce titre hein, qu'en fait.
Elle est mignonne cette petite, c'est qui
Pierre-Yves a complètement craqué sur menteuse. C'est à partir de là qu'il s'est dit mais.
La cette deuxième fille de François Mitterrand.
Ouais. C'est un véritable phénomène, Carmen Maria Vega. Mais vraiment un
quand
vrai.
Quand on regarde la bio, c'est sûr.
Inclassable. Et alors, à un moment donné, regardez, Christophe, page 82 ou 84, vous avez toute une liste d'adjectifs.
Heureusement qu'on a tout lu
elle
avant de venir.
Ah, mais moi, je travaille. Ouais. Il y en a un sur les deux qui bosse.
C'est déjà pas mal. Hein.
Vous voulez que je regarde dans les yeux ou que je regarde Carmen
dites-le à Carmen, elle les connaît.
Ouais, d'accord. Mesdemoiselles, donc. Non, j'ai mélangé. Mesdemoiselles. Créative. Oui. Franche, direct, oui, ça c'est sûr. Dévoué, ça c'est intéressant.
Ça c'est son avis. Hein.
Entière, je passe. Fidèle, ça ne me regarde pas, mais quand même. Fidèle.
Oui, bah heureusement.
En amitié.
En amitié, en amour, en tout.
Émotive.
Ah bah ouais, à fond.
À fond. Loyal.
Oui.
Sentimental.
Ah oui.
Ah
bah oui.
Dans les yeux.
Dans les yeux.
D'accord. Conquérante, non pas dans les yeux. Audacieuse.
Oui.
Exigeante, oui, normal.
Ça oui, ça c'est important.
Quand on fait ce métier-là.
Bah c'est primordial quand même. Hein.
Ok, comme Agnès donc, et rigolote.
Il faut aussi, parce que c'est important de rire.
C'est vrai, c'est bon en ce moment.
Et là, moi, non, j'ai pas droit comme Agnès. Hein. Rigolote, non.
Ah oui, rigolote. Cherchez le mot.
C'est hyper émouvant et en même temps, voilà, il y a tout un truc où on a plein de photos, des caricatures. Et alors moi, il y a un truc que j'adore chez vous.
Attention.
J'aimerais tellement avoir un courage en matière de cheveux. Elle change de coupe,
vous
Carmen.
Aussi, vous aussi.
Non, mais Carmen, elle change.
Selon vos humeurs. Précieuse capillairement. Ouais,
mais
c'est vrai,
toutes les semaines, elle change de coupe. Et de couleur.
Mais c'est vrai.
Bah oui. Je m'ennuie très vite. C'est comme dans l'artistique. Hein.
Vous êtes fidèle.
Du mouvement.
Vous êtes fidèle en tout, mais tout à l'heure.
Mais la fidélité, on a le droit de changer. Excusez-moi, mais je sais pas. Mais
Carmen,
vous êtes un homme ou pas?
Oui, à changer de coiffure, voilà. Ça veut dire
alors,
quoi?
Vous aimez pas quand même quand votre femme elle fait un peu des efforts et elle vient tous les jours avec une nouvelle tête, franchement.
Mais c'est comme quand un homme offre trop souvent des fleurs.
Non, mais... Oh là là. Alors je vais te dire, ça, avant que ça arrive, la blague, quoi. La blague.
Paco qui est en macho, il va se prendre une tôle avec Carmen en face.
Grâce, quoi. Alors là, ce premier mec qui arrive toutes les semaines avec des fleurs, j'aimerais bien que tu me le présente, tiens.
Allez, bim.
Attendez, on signe 06 alors.
Mais alors vas-y, donne.
Vas-y, okay. Il n'a que de la bouche, Christophe Paco,
parce qu'après,
ce soir.
Je me trompe dans les couleurs de fleurs. Non, mais généralement, même si ma femme écoute, généralement, le changement de couleur, de coiffure, c'est synonyme de quelque chose, non?
Vous voulez faire une analyse freudienne, là?
Pas du tout, c'est généralement...
Je me suis rasé la tête parce que c'était vraiment une révolte.
Au-delà de changer d'homme,
c'était
changer
une révolte
de vie.
Interne, j'en avais tellement marre, quoi.
Non, mais je connaissais pas genophobie. Non, mais c'est
c'était
quoi
super compliqué, non, mais... ce jour-là, je devais aller prendre le métro et je me suis dit, tiens, je vais devenir rousse, tiens.
Non, mais c'est une phobie ou c'est juste un kiff grave?
Mais non, attendez, on est artiste, si on n'a pas le droit de changer toutes les 10 minutes de coupe de cheveux, c'est quand même le métier où on peut se le permettre, quoi.
D'accord.
Ouais, non, c'est clair. Dans la vie, je vois bien, les gens sont un petit peu, n'ont pas forcément le courage de le faire parce qu'ils ont peur.
Et puis c'est cher.
Bah oui. Mais moi, j'ai la chance de pouvoir de temps en temps dire à mon copain, mais tu pourrais éventuellement me couper les cheveux.
Ça coûte. Une coupe féminine, vous savez combien ça coûte, vous, Agnès?
Un bras.
Un bras.
Un bras et demi.
Alors que nous, les hommes.
Bah, vous coupez les cheveux un petit peu, non?
Ouais.
Bon, c'est vrai, mal, mais...
J'ai pas mis de gel, c'est pour ça. Quand on vous connaît pas, on vous découvre, c'est juste génial, parce que vous avez fait tellement de choses, vous faites du cinéma, évidemment, vous avez tout tenté, vous avez fait des spectacles, vous chantez merveilleusement Boris Vian.
Attendez, ah, parce que voilà. Là, moi, Boris Vian, il y a une chanson que j'écoute.
Allez, vas-y, fais-moi mal.
Mais super souvent, mais ça vous met une pêche le matin. Est-ce que là, vous réalisez que vous êtes à un vrai tournant avec Miss Tinguette ?
J'ai l'impression qu'il y a un tournant, de toute façon, quoi non, que je là, propose, il y a un tournant.
Oui, mais là, c'est un tournant dans le sens, on s'est pris ça dans la figure, c'est-à-dire ce personnage, ce petit bout de bonne femme là, qui arrive, qui nous en envoie plein la figure en spectacle, sachant qu'elle a fait déjà des centaines de concerts. Elle a trois albums. Puis il y a cette comédie musicale qui marche super fort. Évidemment que vous devez avoir des propositions, y compris au cinéma.
Bah, de toute façon, les propositions, il y en a toujours. De qualité, c'est pas toujours le cas. Ça, c'est normal. Voilà, parce que souvent, les gens ont envie de vous revoir là où ils ont déjà vu. C'est pas forcément très intéressant. Mmh. Ce qu'on a envie de faire quand on est artiste, c'est aussi être en danger. Si on est bien confort, on s'ennuie hyper vite. C'est un peu comme les coupes de cheveux. Hein. C'est à un moment donné, s'il n'y a pas de danger, s'il n'y a pas de prise de risque, moi, vraiment, je m'ennuie très, très vite. Quoi.
Et là, dans les propositions, est-ce qu'il y a des mises en danger?
Pas tellement.
Mises en abîme.
Pas tellement. Le prochain disque est une mise en danger puisqu'il est plus perso, et bon voilà, maintenant les gens savent, et il y a une réalité que j'ai pris dans la tronche il y a 6 ans et j'avais besoin d'en parler aussi. Donc voilà, oui, enfin, des prises de risque, il y en aura tout le temps.
Mais ça, votre truc, c'est que vous êtes hyper aussi éclectique, donc on a l'impression que vous pouvez tout faire, et enfin, il y a quelqu'un qui le dit très bien dans le livre à un moment donné. Si par exemple, là, on vous disait, vous avez une baguette magique, vous faites rentrer qui vous voulez.
Ah.
Pour faire un duo là maintenant. Freddie Mercury.
Avec Freddie Mercury ?
Ah ouais, ouais.
Ah ben voilà.
Je suis une grande fan de Queen.
Lequel ? Le morceau ?
Parce alors, si tu arrives à me sortir Living on My Own, la version remix de 93, alors là, elle est telle. Là, je t'aime. Oui ! Toi quand même que ça, c'est mon premier souvenir musical de gamine. J'avais genre 5-6 ans, je me rappelle.
De ça ?
Oui, c'est mon premier souvenir de musique, je sais pas pourquoi c'est celle-là.
Bah on y va, vas-y.
À Saint-Gervais, en Savoie, autour d'une fondue. Ah,
oui.
Avec les grands, je m'ennuyais et dans le restaurant il y avait ça.
Allez, on y va.
Qui aurait su que 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, j'aurais été une fille à PD moi aussi.
Là.
On dit aux gens de se précipiter sur ce magnifique objet.
Oui, il faut revenir à l'essentiel, hein, quand même.
Ouais,
cette bio à 25 ans.
À 18 ans de carrière.
Pour les 10 ans de carrière de Carmen Maria Vega. Et ce sera un objet de collection, ouais. Parce qu'il va y en avoir plein après. Moi, je prends les paris. Hein.
Prenons les paris.
Vous prenez un risque ?
Je reviens. Je ne prends aucun risque. Ouais, mais dans 10 ans, vous ne voudrez même plus nous parler.
C'est ça.
J'espère bien.
Vous serez avec vos bodyguards et pour vous dire « Carmen !
Salut, ça va ? C'est qui ? Je te connais pas.
Là, ça continue, Miss Tinguette, en ce moment ?
Ça continue jusqu'au 3 janvier, ouais.
3 janvier.
Ouais, ouais.
Au Comédia,
qui est une super salle.
Il va falloir quitter les habits de Miss Tinguette, hein, à un moment donné.
Ah oui, oui, il faut faire d'autres trucs, maintenant.
Super jolie bio signée Pierre-Yves Paris, évidemment, de Carmen Maria Vega. On se quitte avec quelle musique ? Qu'est-ce que vous voulez ?
Alors, on a fait Freddy. Je leur compliquais la tâche encore.
Ah non !
Alors, j'aimerais Shine on Your Crazy Diamond des Pink Floyd.
Ton, 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 ton.
Bon, on se dit au revoir avant que l'intro arrive. À bientôt, Carmen.
Salut.
Pink Floyd, pour terminer ce soir, tel grand soir. Le choix de...
Carmen Maria Vega.
Prenez votre temps. Ça va arriver, les Pink Floyd. Ça va arriver tranquillement.
L'intro de 6 minutes.
Merci, Carmen.
On ne peut plus faire ça, maintenant, la musique.
Bonne nuit, Carmen.
Allez, bonne nuit, hein. Je vais mettre mon pilou.
Hey, bonne nuit.
Bonne nuit. Bisous. Remember when you were young. You shone like the sun.
Shine on. Oui, les Pink Floyd, on a réussi. On a réussi. Carmen Maria Vega est notre invitée ce soir dans Signe Agnès.